On est sur la 31A, une autoroute, malgré que ça paraît pas trop. Là, il y a juste deux voies, puis là, c'est l'hiver, donc c'est très, très, très tranquille. C'est situé entre Caslo et New Denver. C'est une autoroute qui a été bâtie dans le temps de l'époque minière. Ici, en ce moment, on est à 1000 mètres d'altitude. Fait que c'est considéré comme une passe. Puis c'est aussi considéré comme un corridor de connectivité pour toute la faune et la flore. Les crocs grizzlies, les caribous, les carcajous. Fait qu'ici, c'est comme une espèce de zone qui n'est pas zonée parc, mais qui connecte des énormes entités sauvages. Donc, les grizzlies passent par ici, les carcajous, pour aller d'un parc à l'autre.
Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 4, Alexandra Pronovo, Splitboard, Ritalac.
C'est toujours le fun de juste être dehors puis de se balader. Je réalise, en vieillissant, on dirait que j'aime pas plus, mais j'aime vraiment l'ascension. Avant, je faisais juste la descente ou beaucoup de descentes dans une station de ski. Puis là, depuis que je fais juste du backcountry, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment plaisant de développer une relation avec la montagne, de remarquer toutes les petites choses que la neige fait aussi. T'es plus in tune avec les éléments. Puis tu vas faire une descente dans ta journée. Puis c'est tout. Tu sais, ça va être génial, mais tu vas passer 2-3 heures à monter.
Anthropologue de formation, Alexandra Pronovo travaille maintenant au sein de l'organisme Autonomous Senecs à Ritalac. Celle qui est aussi matelot, DJ et artiste de burlesque est alliée des causes environnementales et Premières Nations depuis longtemps. Elle nous explique la situation unique et compliquée dans laquelle se trouve le peuple Senecs au Canada et de leurs efforts pour la préservation de leur langue, culture et de l'écosystème fragile de Ritalac, qu'on prononce Pikelana en langue Senecs. On la rencontre devant la murale aux couleurs vives et chatoyantes qui borde la route enneigée de ce village fantôme qui date de l'époque minière. Les pots d'ascension bien fixés, on est déjà à plus de 1000 mètres d'élévation et on s'élance dans la neige fraîche de cet endroit peu connu de la Colombie-Britannique.
J'aimerais souligner qu'on est aujourd'hui rassemblés dans le territoire du grand grizzly blanc, le Pikelana, qui fait partie du territoire ancestral et non cédé du peuple Senecs, le Temhulao. Je veux dire que je suis très reconnaissante de pouvoir être ici puis de pouvoir profiter de ce que la nature nous offre. Puis je demande aussi de la protection. Puis on va faire une petite offrande de tabac plus tard. J'aime ça faire ça en début de saison. En offrant du tabac, les esprits de la montagne sont heureux puis ils nous offrent un peu de protection pour notre saison.
Qu'est-ce que tes études en anthropologie te permettent de comprendre la situation des peuples autochtones ici, les Senecs, que d'autres personnes pourraient ne pas comprendre? C'est quand même une situation qui est très compliquée.
Je dirais que comment est-ce que ça m'influence aujourd'hui, c'est que ça a été le début de mon cheminement dans la décolonisation. J'ai eu des cours sur les Autochtones et l'État canadien. J'ai commencé à apprendre sur les pensionnats, le 60s Scoop, tous les traités signés dans l'Est, mais qui n'ont jamais été respectés. Tu sais, donc là, t'es comme réveillé, t'apprends tout ça. Puis là, je passe à travers, tu sais, comme le white guilt, tu sais, se sentir coupable d'être blanc. Puis après ça, tu sais, une fois que tu traverses ça, parce que c'est important de traverser ça, parce que si tu restes dans cette espèce de sentiment de culpabilité, t'es pas utile à la cause. T'sais, ça m'a mené à plein d'expériences au Québec, que j'ai travaillé avec diverses communautés autochtones aussi. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des aînés qui avaient été nés dans le bois, dans un tipi ou dans un igloo, puisque j'ai aussi eu la chance de travailler avec les Inuits. Fait que c'est sûr que ces expériences-là, en personne, c'est là que tu apprends le plus. Quand tu écoutes puis tu entends les histoires vécues des gens, tout ce que tu as appris dans ta théorie ou dans tes livres, là, ça frappe.
Le feu!
Oui!
Comment tu te définis, toi?
Je suis une genre de femme qui touche à beaucoup de choses, mais qui n'est pas nécessairement spécialisée dans rien. Même que je m'ennuie si je fais quelque chose trop longtemps, trop sur le même sujet. Je fais un peu de DJing, je fais un peu de burlesque. Je suis quand même patenteuse, mais je suis aussi quand même très intello, sportive, mais tu sais, pas à fond dans rien spécialement, mais comme j'aime m'intéresser à beaucoup de sujets aussi, tu sais, là, je commence à être de plus en plus calée dans les sujets de l'environnement, puis la conservation des grizzlies, parce que je suis dans cet environnement-là ici, fait, j'ai été matelot pendant 5 ans, fait que j'ai aussi ça, tu sais, j'ai comme beaucoup de cordes à mon arc.
Matelot?
Ouais. Où j'ai ça? Navigué, écoute, tu sais, c'est une drôle de portion de ma vie, mais comme à l'âge de 30 ans, 31 ans, j'ai participé à l'émission, c'était un documentaire, aventure, télé-réalité, La Grande Traversée.
Ah, puis, ça me dit de quoi?
Puis la description était quand même vague, et c'était « Nous recherchons des gens qui aiment l'aventure et l'histoire ». Là, c'est ça, moi j'ai mon bac en anthropologie, je m'intéresse à l'histoire, of course, l'aventure, oui, c'est parce que je suis quelqu'un d'aventureux, qui aime se prendre des risques, puis je suis capable de changer ma vie, tu sais, de vraiment faire des grands changements de cap, comme venir habiter encore en Colombie-Britannique. J'ai été prise, j'étais très surprise, puis autre changement de cap, j'étais dans l'Arctique à ce moment-là. Fait que je travaillais avec les Inuits dans une école, je faisais un contrat de remplacement. Je me fais contacter par l'émission. Dans le fond, ils nous ont envoyé en France. Puis le concept de l'émission, c'était qu'on traversait l'Atlantique dans les conditions de nos ancêtres.
Wow!
Donc, les prérequis à la participation, c'était qu'il fallait peut-être une ancienneté assez loin, tu sais, génétiquement parlant, là, dans mon arbre généalogique. Donc, ils nous ont fait notre arbre généalogique. Donc, j'ai découvert que mes deux ancêtres, dans le fond, j'ai une femme puis un homme qui ont traversé à peu près à la même époque. En 1660. Fait que j'ai comme visité l'église où mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère avait été baptisée.
En France?
En France, ouais, dans le bout de La Rochelle. Donc, c'est sur un grand voilier à 3 mâts qui s'appelle le Picton Castle, mais là, dans l'émission, ils l'avaient appelé l'Espérance. Ils nous ont enlevé tous nos biens matériels, tous nos trucs du 21e siècle. Ils nous ont donné un coffre. Dans le coffre, il y avait comme le costume de l'époque. Puis on a fait la traversée.
Wow!
On était filmés à travers ça. Puis là, tu sais, il y a des gens qui ont craqué. Il y a des gens qui ont vraiment pas trippé. C'était pas facile parce qu'on travaillait les corps de travail avec les matelots. Donc, au moins, on n'était pas mis en cale comme nos ancêtres. Là, tu sais, il y avait des petits anachronismes.
Que personne d'autre aurait peut-être remarqué, mais...
Ouais, c'est ça. Je suis content d'en parler avec toi. Mais comme perdre un peu l'histoire... Tu sais, un autre exemple, c'est qu'ils nous avaient donné de la vaisselle, tu sais, pour cuisiner, parce qu'on devait cuisiner nos propres mets. Puis, je pense qu'ils avaient acheté ça dans un antiquaire. Puis la poêle en fonte. Là.
Ouais.
Nos ancêtres étaient pauvres, tu sais. Ceux qui traversaient, là.
Il n'y avait pas de la fonte de...
Ben, s'il y avait une poêle en fonte, ils la gardaient clean.
Ah ouais.
T'sais, ça serait comme l'instrument principal de cuisine.
De tous les jours, à chaque trois jour. Repas.
Celui qu'ils nous ont fourni était... couvert de verre de gris.
Ah, donne pas vraiment le goût de manger là-dedans.
Notre première soupe, là, était comme noire. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'était comme un autre anachronisme. C'est comme, ça faisait beau, mais dans les faits, nos ancêtres, étant pauvres comme ils étaient, leur poêle en fonte, ils l'ont regardé bien belle, bien propre.
Puis là, ce tournage-là n'a pas duré 5 ans, quand même?
Non, non, ça a duré, c'était 55 jours à travers.
Puis on peut l'écouter, ça?
Ouais, elle a été en ligne pendant longtemps, ils l'ont rejouée.
Wow,
ouais, ça a l'air tellement fun. Ça se trouve encore sur le... C'était sur Radio-Canada, dans le fond, que ça jouait. Parce que moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai trippé ma vie. Pendant qu'on était 10 colons, 6 hommes puis 4 femmes, puis la plupart ont détesté l'expérience, mais moi, j'ai juste comme tellement allumé. J'adore ça, découvrir des nouvelles cultures, sous-cultures, tu sais, mon côté anthropologue. Là, je découvre la sous-culture des marins de grands voiliers. C'est une belle gang de monde international, tu sais, qui sont passionnés de garder vivant.
Des coutumes.
Coutumes, puis aussi des pratiques qui datent de avant les engins. Parce wow. que ce navire-là, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est un navire école. En ce moment, ils sont en train de faire un voyage autour du monde. Puis ils vont à plein de petites île, tu sais, que tu peux juste accéder en voilier presque. Puis il y a encore à bord un woodworker, tu sais, un charpentier qui fait toutes les réparations. Il y a encore un sailmaker. Donc, toutes les voiles sur ce navire-là sont cousues à main. Fait que, tu sais, j'ai appris à coudre des voiles, j'ai appris à faire du fer de bois. Tous les cordages sont en chambre, tous les nœuds, tu sais, on a tout appris ça. Là, j'ai 55 jours de temps de mer. On a tenu les corps de travail, donc là, je suis quand même avancée. Tu sais, tu peux, pour devenir matelot au Québec, tu peux aller à l'IMQ, l'Institut maritime du Québec, puis faire l'école, puis après ça, tu fais des stages, puis là, t'accumules du temps de mer. Mais là, moi, c'est comme, je suis comme passée par la porte d'en arrière à cause de cette émission-là, mais c'est du temps de mer qui était reconnu par Transport Canada.
Wow!
Puis l'été d'après, il y a eu les rendez-vous des grands voiliers en 2017 à Québec City.
Ah oui?
Puis j'étais allée en auto pour aller voir la gang, parce qu'il y avait encore beaucoup des mêmes matelots qui étaient encore à bord. Puis là, j'arrive là, puis tout le monde m'a dit, mais là, toi, t'es un matelot en barque. Puis là, moi, je suis juste allée pour le week-end. Finalement, je me suis fait prendre par un capitaine qui m'aimait bien sur un schooner américain. Puis je suis embarquée avec eux comme, ils appellent ça des trainees. Donc, t'es logée nourrie, mais tu travailles pour le bateau, mais t'es pas payé. Mais tu voyages, t'accumules du temps de mer. Fait que là, je me suis comme arrangée avec une chum qui faisait un voyage de vélo Montréal-Québec. Elle a ramené mon auto. J'étais allée m'acheter les affaires que j'avais besoin. J'étais embarquée à bord, puis je suis pas revenue.
Wow!
De mon week-end. Je me suis ramassée à faire plein de ports dans l'Est, tu sais, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, pour le festival. Puis après ça, j'ai rechangé de bateau. Je suis revenue sur le navire avec lequel j'avais traversé l'Atlantique. Puis je suis allée à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse.
Wow!
Puis j'ai fait une école Bolson de 3 mois que ce navire-là organise. Puis j'ai appris encore plus. On a tout enlevé les voiles, tout remisé le bateau. On y a refait une beauté. Puis là, on est allé au Texas, en passant par les Bermudes, où on est arrêté un mois pour retravailler le bateau au chaud. Puis là, en route vers le Texas, le capitaine a dit « On a besoin de 3 matelots pour aller travailler dans les îles Cook, dans le sud du Pacifique. »
Fait que t'as levé ta main.
Ouais. J'ai navigué dans le sud du Pacifique, dans les îles Cook, puis de Samoa. Wow. Genre l'endroit que j'irais jamais. Puis, je veux dire, le contact avec les gens de la place quand t'arrives en navire est vraiment différent que quand t'es comme un touriste qui est dans un hôtel, qui est arrivé en avion, tu sais.
Ouais.
Fait que culturellement parlant, ça a été super intéressant. Tu sais, Moana, là, le film.
Ouais.
Ben, c'est ça. Les tatous, c'est toute une génétique, là, les Polynésiens, puis. Ouais, c'était vraiment exotique. Fait qu'après ça, je suis revenue là complètement paumée, fait que j'ai décidé de travailler pour la marine marchande au Canada.
OK. Wow!
Puis tu sais, moi, c'est ça, j'ai un background intello, j'ai fait du... Tu travailles comme auteur longtemps, tu sais, je suis beaucoup dans le travail social, là, mais là, j'étais dans une passe dans ma vie que j'étais comme, ah, je vais faire du travail manuel, puis je vais me prouver en tant que femme aussi dans un milieu qui est comme plus homme. Fait que j'ai travaillé pour le nouveau pont Champlain à Montréal.
Ah, oh, wow!
Ouais, sur les remorqueurs.
Ouais.
Puis là, on allait placer les barges en dessous du pont. Puis après ça, je me suis commencé à travailler pour NEAS. On fait du transport de cargo pour les communautés inuites, du Nunavik puis du Nunavut. Fait que j'ai fait ça 2 saisons, c'est 5 mois non-stop, pendant qu'il n'y a pas de glace. Là.
Ouais.
Puis on transporte tout ce qui n'est pas transportable par avion. Fait que les Inuits, quand on arrive... C'est comme Noël.
Ah, ça doit.
Ouais, toutes les autos qui se commandent, tous les matériaux de construction. Ça m'a permis de voir un peu un autre côté de l'organisation du Nord. Moi, là, c'est ça, je suis rendue avec mon brevet, je peux conduire les bateaux. Fait que je conduisais ces gros bateaux-là, cargo. C'est ça, c'était le fun parce que je pouvais débarquer à chaque village. Puis là, je rencontrais plein d'Inuits. Je suis très, très amoureuse de la culture, des cultures Inuits. Le côté moins plaisant, par exemple, c'était que j'étais la seule femme sur le navire. Puis c'était pas nécessairement une masculinité la plus positive qu'il y a. C'est... En fait, c'était, ouais, c'était pas très plaisant pour mon identité de femme. Là. C'est bien beau faire de bel argent. Après 2 saisons, j'étais comme non.
Ouais.
Moi, ouais, c'est ça.
Ça a fait son temps.
Ouais. Puis là, la pandémie est arrivée, puis je me suis revenue au BC.
C'est à ce moment-là que t'es venue au BC?
Ouais.
Puis, pour quelle raison?
Tu sais, l'Ouest, c'est ça, j'ai une histoire d'amour avec l'Ouest depuis que j'ai 20 ans. Comme beaucoup de Québécois, je suis venue faire les cerises après le cégep, près du lac Kalamalka.
Ouais.
Super beau lac.
Puis l'eau turquoise vert.
Ouais, l'eau turquoise, c'est ça. Puis il y avait un endroit où on allait, puis on pouvait sauter des cliffs après nos journées de Pékin. À travers ça, on avait rencontré quelqu'un qui travaillait pour les arbres, tu sais, la plantation d'arbres. Fait que là, l'été d'après, j'ai planté des arbres. Même que c'est comme ça que j'ai financé mes études universitaires. Puis à 20 ans, c'est ça, avec la gang d'amis avec qui on avait fait la cueillette de cerises, on s'est tous trouvé un contrat à Kicking Horse. Fait que j'avais 20 ans, puis ma première expérience de snowboard dans l'Ouest, ça a été Kicking Horse.
Ça, c'est Golden?
Ouais.
Super. Une des montagnes intense. Les plus à pic, puis les plus demandantes, là.
Ouais. Je sais. La première fois, je m'en souviens encore. Les hôtels étaient même pas finis d'être construits là en bas. La montagne, elle venait d'être achetée. Avant, c'était une petite montagne locale. En fait, ça faisait pas plaisir aux locals, là. Parce que là, tout d'un coup, les prix des billets, tout était comme en train de se gentrifier puis de se transformer, là.
Mm-hmm.
Mais nous, j'étais pas tant concernée de tous ces aspects-là, socio-économiques. À cette époque-là, j'étais juste... Moi, je checkais les billets, tu sais. Puis j'organisais le parking. Puis ça me permettait de skier à chaque jour, d'avoir une passe gratuite. Puis la première fois dans le gondole, ouais, j'avais peur, là, je tremblais. T'as jamais fait de ski dans poudreuse, tu sais.
C'est vrai, parce qu'on n'a pas ce type de neige-là. Ou peut-être une fois par année, là, au Québec, là, genre, mais tu sais...
Profond comme ça.
Ici, c'est quasiment tous les jours.
Tu sais, dans le fond, c'est ça. Cet hiver-là, là, j'ai vraiment gagné en expérience, puis en capacité là, de planche à neige. Tu sais, moi, rapidement, j'ai pris goût au hors-piste et pas tant au passe puis au billet de ski, puis ça va vite.
Puis quelqu'un qui a jamais fait du hors-piste, c'est quoi la différence ou qu'est-ce que t'allais chercher de... Ou pour quelle raison tu penses que t'as plus trippé hors-piste, finalement?
Ben, c'est sûr qu'il y a la question du coût. Puis après ça, il y a la neige folle, fresh tracks. Il n'y a pas de dammers.
Tu passes c'est par de où tu veux.
C'est la neige fraîche, tu passes par où tu veux. Donc, il y a le côté aventure, il y a le côté débrouillardise. Il y a le côté aussi la relation que tu bâtis avec l'endroit. Parce que la montée prend beaucoup plus de temps que la descente. Donc, tu as vraiment plus le temps de remarquer les arbres, le son des oiseaux, la qualité de la neige, les vues... J'ai toujours aimé quand même la partie ascension, mais l'entraînement aussi que t'as. Moi, j'aime ça faire ça en petit groupe. Quand même des risques associés à ça. Faut que tu fasses confiance aux gens avec qui t'es. Puis, tu sais, j'ai déjà été dans une situation où quelqu'un a vraiment pris peur. Des fois, il y a des petites avalanches ou t'es pas dans un environnement contrôlé. Et donc, l'adrénaline que t'en retires... Fait que c'était une envie de m'éloigner des foules puis d'avoir une relation plus intime aussi avec l'environnement. Et moins d'impact. T'sais, ça, c'est venu par après cette réflexion-là. Mais tu sais, fabriquer de la neige, couper toutes les arbres pour faire des pistes. Il y a un impact, il y a une empreinte écologique assez grande. Tandis que si tu montes en pot d'ascension, ça n'a pas beaucoup d'impact environnemental. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a un, là.
Une des raisons pourquoi je voulais qu'on se parle, c'est parce que je sais que tu es très active au niveau... Il y a un projet de station de ski à Zington, qui est proche de où toi tu habites, qui est à Rétalac. C'est pas tout le monde qui est pour l'ouverture de cette station-là, puis je voulais vraiment que tu m'en parles un peu plus.
Ayant travaillé beaucoup avec les Autochtones au Québec, je suis arrivée ici, puis là... Tu sais, tu regardes autour de toi, puis il y a plein de murales sur l'histoire de la région. C'est toute l'ère pionnière. 1850, tu vois des messieurs en train de faire un chemin de fer. Ou,
le les Silver mines, Rush.
Tu sais, puis
ouais.
Là, je me posais vraiment la question. Je dis, ils sont où, les Autochtones? Tu regardes autour de toi, il y a des rivières, des lacs, des forêts. Tu sais, on est dans une forêt pluviale intérieure.
Fait que c'est sûr qu'il y avait des Autochtones.
On est dans un environnement propice à la pêche, la chasse, tu sais, aux pratiques traditionnelles amérindiennes. Alors, je fouille un peu plus. Puis là, c'est là que j'ai découvert la présence des Sénèques. Et je découvre aussi, c'est ça, que les Sénèques ont été déclarés éteints par le gouvernement canadien. Donc, ça, c'est une première dans toutes mes expériences avec les Autochtones au Canada. Parce que là, évidemment, je leur ai écrit. Je leur ai dit, moi, je veux travailler avec vous, bénévolat, whatever, mais je veux supporter votre cause. Peu importe où je suis au Canada, je vais toujours travailler en décolonisation, parce que je trouve que c'est un des enjeux les plus importants qu'on a, nous, au Canada.
Fait que le gouvernement du Canada avait déclaré les Senecs comme étant éteints.
Inexistants.
Extinct.
Yes.
Mais là, finalement, toi, t'arrives ici, puis tu prends contact avec les Senecs qui ne sont pas
éteints,
finalement. Exact. Puis là, tu commences à travailler pour Autonomous Senecs.
Ouais, exact. Puis ça, c'est un groupe que c'est pas tout le monde qui suit ou respecte parce qu'ils sont un système de gouvernance traditionnel. À travers le colonialisme, on a eu les conseils de bande qui ont été établis par la loi sur les Indiens de 1976. Donc, c'est un système de gouvernance qui a été imposé par le gouvernement fédéral. Ils ont dit aux communautés autochtones, OK, on va vous mettre de côté des réserves. Puis là, vous allez élire un chef de bande à chaque 4 ans. T'sais, on a imposé notre système de gouvernance à des sociétés souvent qui étaient matrilinéaires, qui étaient basées sur des conseils d'aînés. T'sais, on a mis complètement de côté leur système de gouvernance. C'était des nations avec leur propre système de gouvernance, mais nous, on est arrivés et on leur a dit ils doivent faire comme nous. Donc, encore aujourd'hui, en 2023, on a des tensions à l'intérieur même des communautés autochtones entre les systèmes de gouvernance traditionnels que plusieurs ont gardés vivants en parallèle au système plus récent, moderne, de conseil de bande. Et disons qu'on prend l'exemple des Wet'suwet'en, où il y a un projet de pipeline. Le conseil de bande de Wet'suwet'en a depuis très longtemps signé et a dit oui au pipeline. Mais les chefs de clan traditionnels se sont opposés au pipeline, puis il y a des activistes qui bloquent le pipeline depuis 15 ans. Moi, je suis soldat au système de gouvernance traditionnelle des Senecs.
Et là, tu travailles avec ce groupe autochtone-là, qui est très présent puis qui est très respecté ici.
Oui.
C'est super compliqué.
C'est super compliqué.
Puis je trouve que c'est facile de dire, mais c'est trop compliqué, fait que on comprend rien, anyway. Fait que laissez donc faire. Toi, tu fais quand même l'effort, puis je pense que ça fait partie de ce que chaque personne doit faire.
Mm-hmm. Puis je considère que la décolonisation, c'est l'histoire d'une vie. Apprendre à décoloniser nos pensées, nos regards, nos biais, nos réflexes. Quand tu commences sur ce cheminement-là, tu réalises que il y a beaucoup de déconstruction à faire avant de pouvoir construire. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de vérité et réconciliation. La décolonisation, c'est tout l'aspect vérité, selon moi. Si tu veux entrer en réconciliation, même en tant que société, en tant qu'État, il y a beaucoup de travail à faire dans le domaine de la vérité.
C'est pas juste de s'acheter un T-shirt orange?
Ouais, non. Écrit que c'est ça. C'est une étape si tu portes le T-shirt orange parce que tu reconnais le meurtre et la disparition de tous ces enfants-là. T'es déjà avancé un peu dans le domaine de la décolonisation parce que t'es en train de déconstruire l'histoire un peu naïve qu'au Canada, on n'a jamais été violent puis on a toujours bien fait les choses.
Mais t'sais,
ça a été un choc, je pense, pour plusieurs Canadiens et Canadiennes quand on a découvert à Kamloops ces restes-là d'enfants qui n'ont pas été enterrés. On a une histoire violente au Canada. T'sais, on aime ça, on dirait penser qu'on est tellement accueillant ici. Et
j'ai dit ça en blague, mais tu sais, ça nous met dans une position qui est extrêmement inconfortable. Puis je pense que des initiatives comme le T-shirt orange, il y a bien du monde qui vont juste sauter là-dessus. Ils vont être comme, ah, c'est fait.
Ouais.
Checklist. Mais tu sais, il y a vraiment plus que ça à faire.
Mm-hmm. Une des règles de la gouvernance traditionnelle des Senecs qui est smomim, qui veut dire appartient aux femmes, parce qu'eux, c'est une société matrilinéaire, matriarcale. Donc, moi, je travaille pour une matriarche qui a été nommée.
Pour Marilyn James.
Qui a été nommée là par le conseil des matriarches. Puis, une de leurs règles, c'est que en premier, tu dois prendre soin de toi-même, de ta famille immédiate. Et ensuite, tu peux commencer à prendre soin de ta communauté ou t'investir là où tu es. C'est déjà beaucoup juste gérer sa vie dans le contexte social où on est. C'est un système économique assez violent. Il y a beaucoup d'injustices déjà. T'sais, ça peut être beaucoup de s'embarquer en plus dans un cheminement de décolonisation. Mais je considère que c'est une responsabilité qu'on a tous. En fait, les nouveaux arrivants, je trouve, des fois, ils ont une plus grande sensibilité à la décolonisation que les colons. si on veut s'appeler comme ça, les colons. On est des colons. Moi, je suis une colonne. Ça fait 400 ans qu'on est au Canada. Mais c'est ça, on est arrivé puis on a pris les terres. Tu sais, veux pas, il y a eu une énorme injustice dès les débuts. Et de pas reconnaître ça, donc de pas être dans la vérité, on peut pas naïvement d'abord avancer dans la réconciliation. Ça me prenait cette introduction-là pour parler de Zénith.
Yes, sir. J'allais te relancer sur ta question-là.
Oui, non, t'es toujours là, mais...
T'as de la suite dans les idées, j'adore.
C'est juste parce que là, je reconnais, c'est ça, que je suis sur le Temhulao, le territoire ancestral et non cédé du peuple Senex. Retalak, les Senex l'appellent Pikilana. Les biologistes l'ont nommé le Retalak Corridor. Donc là, ça fait 70 ans que les mines sont fermées. C'est très isolé, plus ou moins habité. Il y a une autoroute, mais c'est considéré comme un corridor de connectivité pour les animaux, tels que le grizzly, les animaux qui sont en voie de disparition. Les grizzlies, c'est une espèce indicatrice. Où il y a des grizzlies, d'habitude, tout le reste de l'écosystème se porte bien. Donc, on focus beaucoup sur le grizzly, mais on s'entend que l'approche est écosystémique, si on veut, parce qu'elle concerne la santé de l'écosystème au grand total. Pikilana, ça signifie white grizzly. Donc là, j'apprends ça à penser. Il y a un gène récessif propre aux montagnes Selkirk, propre aux montagnes Selkirk centrales, où ce corridor-là est, qui, il y a un grizzly sur 10 peut-être, qui est blanc. Il y a comme des pattes un peu plus foncées. C'est une variation génétique de grizzly qui n'a jamais été vu ailleurs. Ça, ça démontre un bassin génétique en santé. Les grizzlies, ils ont besoin des grands territoires. Ils sont très sensibles au développement humain. Il y a comme un seuil auquel ils peuvent tolérer une présence humaine. Si tu dépasses ce seuil-là, ils vont arrêter d'aller dans l'autre territoire à côté. Donc, tu fragmentes le territoire, tu isoles des populations. Zington, c'est un projet de ski proposé dans le corridor de Pikilana où déjà les biologistes qui s'intéressent aux grizzlies, c'est des spécialistes, Michael Proctor, Wayne McCrory, Julius Strauss. J'ai eu la chance de faire des entrevues avec ces deux-là, Julius Strauss puis Wayne McCrory. C'est des hommes qui ont dédié leur vie aux grizzlies. Puis déjà, ils disent, avec l'autoroute, avec les coupes forestières, avec le passé minier, il y a du heli-skiing, donc du ski en hélicoptère, qui se passe dans ce corridor-là. On a le Retalak Lodge qui fait du cat-skiing. Il y a des backcountry lodges qui ont aussi un impact.
Parce que vous, j'espère qu'on va en parler, mais tu es impliqué aussi dans un lodge de backcountry.
Et donc, une modification de leur pratique depuis qu'ils me connaissent.
Oui, c'est vrai. Hein? Tu as amené ça aussi dans leur entreprise puis dans leur approche.
Donc, j'apprends tout ça, donc, veux pas, c'est sûr que ça a un impact direct sur ma manière aussi de skier. Parce que là, je deviens de plus en plus consciente aussi de mon impact, même juste en tant que petite humaine qui monte en peau d'ascension, j'ai un impact. C'est de prendre conscience de cet impact-là. On est des humains, on a un impact. On n'est pas seul. Les cours qui se concentrent sur le safety, l'avalanche...
Santé, sécurité
en avalanche. Oui. Devrait aussi contenir une composante environnement. Quand tu entres dans le backcountry, tu entres aussi dans le domaine des grizzlies, des carcajous, des caribous. Et tu peux avoir un impact très négatif sur eux. Est-ce qu'on veut les préserver? Est-ce qu'on veut pas partager l'espace avec eux? Moi, c'est là que j'en suis. Zington propose une station de ski en plein milieu d'un corridor, en plein milieu d'une zone d'hibernation des grizzlies, en plein milieu d'un territoire qui est encore très difficile d'accès, donc très propice à la présence de grizzlies. Le seuil là, de développement, on est déjà un peu comme à la frontière. Là. Donc, avoir 1200 personnes par jour à une station de ski en plein milieu de ce corridor-là, on signe l'arrêt de mort du grizzly blanc sur nous. Thank you. C'est quand même des régions qui sont connues depuis très longtemps par des locals qui vont skier dans ce coin-là. Puis moi, mon opinion, c'est ben, tu veux y aller, vas-y à pied. C'est vraiment du beau ski dans ce coin-là. C'est du ski que quand tu es rendu à un certain niveau, tu peux commencer à aller là. C'est une chose d'aller à Kootenay Pass, t'es pas loin de l'autoroute, il y a du monde, si quelque chose se passe. T'sais. Là-bas, t'es loin, là t'es loin. Sache qu'est-ce que tu fais.
Ouais, puis on a eu beaucoup d'exemples quand même assez dramatiques. Il y a eu des décès dans notre région, mais un peu partout, en Colombie-Britannique, Alberta.
Ah oui. Oh oui. C'est ça, avec les changements climatiques, ça devient de plus en plus difficile de prévoir, en fait, le cycle d'avalanche. Quelque chose qui vraiment vient me déranger, c'est tellement colonialiste comme attitude, tu sais, de toujours vouloir aller plus loin. Et dans une contrée lointaine, jamais explorée avant, est-ce que ça vient pas de l'époque des grandes explorations puis du colonialisme? Je sais pas, mais comme, est-ce qu'on peut pas se satisfaire des terrains de jeu qu'on a déjà puis arrêter d'aller empiéter sur le territoire des grizzlies? Puis tu sais, je regarde juste dans le coin de Retalac, il y a une forêt ancienne, là. Tu peux juste y aller en peau d'ascension. C'est parfait. J'ai 600 mètres de dénivelé. C'est toujours la neige fraîche. Il n'y a pas de mécanisation. J'entends pas de moteur. Moi, je suis satisfaite avec ça.
Mais là, je vais jouer l'avocat du diable quand même.
Ouais.
On a commencé l'entrevue. Tu t'es définie comme une personne aventureuse.
Ouais.
Mais est-ce que ça se fait? Est-ce que l'humain est capable de juste se dire « Oh non, j'explorerai pas. » Tu sais, on dirait que c'est...
Ouais. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est l'humain ou c'est la culture occidentale? Et d'où la décolonisation de nos pensées, puis de nos biais, puis de nos envies même, qui sont empreintes aussi de cette culture colonialiste-là, tu sais. En effet, je me trouve aventureuse dans le sens où je suis capable de prendre des risques ou complètement changer de vie.
Ouais.
Mais j'avoue que je suis quand même conservatrice dans mes choix de où je vais faire du ski. C'est plus dans, disons, comme justement la question d'ouvrir un nouveau centre de ski. Est-ce qu'on peut pas se satisfaire avec les stations qu'on a déjà? Parce que ces stations-là ont déjà ruiné pas mal, tu sais, les coins où il y a beaucoup d'humains.
Mm-hmm.
Les grizzlies ont déjà des carpilles. On peut-tu, dans le fond, leur laisser d'autres pans de territoire où on sait qu'ils sont? C'est plus dans cette notion-là. C'est ce que j'adore aussi des parcs. Dans un parc, tu peux y aller à pied. Mais tu peux pas y aller avec ta motoneige. Un grizzly en hibernation peut se réveiller. S'il se réveille, ça l'affecte tout son cycle. Fait que, tu sais, il faut qu'on s'imagine qu'est-ce que ça fait, un hélicoptère. Fait que, bref, ça serait bien, en fait, qu'on arrête de considérer l'humain comme étant le supérieur au reste des animaux et des espèces vivantes de cette planète, puis qu'on commence à penser les choses plus en, de manière égalitaire. Et donc, quand on fait des développements comme ça, qu'on inclut aussi les autres. Les Seneca, ils appellent les people, tu sais.
Ah ouais.
Les arbres, c'est les tree people. Les plantes, c'est les green people. Les grizzly people, c'est tout du people. On n'est pas...
J'adore cette approche-là.
Ça vient d'une culture occidentale, ça vient des Grecs, tu sais, ça vient de toute notre tradition philosophique, mais on a élevé l'humain au-dessus des autres espèces vivantes. Parce qu'on a, soi-disant, la capacité du langage que les autres espèces n'ont pas. Mais ça, c'est de ne pas reconnaître que les autres espèces ont d'autres capacités de langage. T'sais, on a une superstar dans les Kootenays, Suzanne Simard, qui a fait des recherches incroyables sur les réseaux de communication des arbres entre eux, à travers le mycélium. T'sais, y a tellement de choses qu'on connaît pas du monde vivant.
Ça me fait penser au niveau du langage. Là, tu m'as appris que Retalac, le nom Seneca, c'est Pikelana.
Mm.
Je vais te poser la question, je sais pas trop comment le dire, mais est-ce qu'en tant que blanc, on a le droit d'utiliser ce terme-là? Parce que clairement, je serais pas capable de faire une phrase en Seneca.
Non.
Mais Pikelana, ben, je peux me le rappeler. Puis, disons, dans le courriel qu'on s'est envoyé, tu me saluais en me disant Lim Limt.
Oui. BIMLUM, c'est merci.
J'espère que je l'ai bien prononcé.
Oui. Le questionnement sur l'appropriation culturelle.
Oui.
Ouais. Si tu prenais le mot, puis là, tu faisais des chandails, tu te mettais à vendre des chandails, ça, ça serait très inapproprié. Marilyn James, elle m'a souvent dit, la terre, le territoire, le temholau, aime entendre le synax. Donc, d'utiliser les mots. En fait, c'est le Silksin, c'est le dialecte des Sinex, parce que c'est une plus grande famille de langues. Donc, le Silksin, c'est ce que les Sinex, dans le fond, de Revelstoke jusqu'à Washington, puis des Rockies à l'autre bord des Slocan. C'est ça, à peu près, le territoire traditionnel. Donc, pas mal toutes les West Kootenays, le territoire aime entendre cette langue-là. Il n'y a aucun problème à ce que tu veuilles l'utiliser et l'intégrer plus dans la vie de tous les jours. Si tu es capable aussi de nommer d'où ça vient, ça peut faire partie même de la cause, parce que là, tu es en train d'éduquer d'autres gens. Disons, moi, j'adore ça acheter des perles, des boucles d'oreilles en perles, quand je vais dans des powwows ou quand je suis à Montréal, ou tu sais, je connais des artisans autochtones, puis je les porte avec fierté. Je sais que c'est pas mon art, c'est pas dans ma culture, mais j'ai supporté un artisan, de un, et de deux, je suis en train de comme de montrer que j'aime leur culture ou l'artisanat, ou tu sais.
Mm-hmm.
Donc c'est pas inapproprié, ce serait très inapproprié si je vendais. Si moi, je me mettais à faire du perlage amérindien, puis que, tu sais, que je faisais des ventes, puis quand tu réappropries la culture de cette manière-là, c'est très mal vu.
Une chose que je remarque dans la région aussi des Kootenays de l'Ouest, c'est que, admettons, un organisme, une entreprise, va des fois vouloir faire une reconnaissance des terres, dire « on reconnaît qu'on est sur un territoire non cédé ». Ils vont dire, exemple, des Senex, des Tonaha, des... Puis là, on dirait qu'ils bundlent ça, ils en mettent 3-4, puis ils sont comme, bon, tout le monde va être content, on a dit allô à tout le monde.
C'est une situation hyper complexe, celle à laquelle on fait face ici, quand les Autochtones définissent qu'est-ce qu'était leur territoire ancestral. Il y a souvent de l'enchevêtement. En même temps, c'est normal. C'est... La plupart des Amérindiens à travers le Canada, sans vouloir trop généraliser, étaient des peuples semi-nomades. Il y avait beaucoup de rencontres entre différents groupes. Certains avaient des pierres que d'autres n'avaient pas, certains avaient des arbres que d'autres n'avaient pas. Au Québec, par exemple, les Inuits, à chaque été, montaient en canot pour aller voir les Inuits. Les Inuits. Les Inuits avaient les raquettes. Les Inuits ont tout ce qui est en peau de phoque. Il y a des échanges qui étaient faits là, les tipis que les Inuits faisaient. Mais il reste que quand tu vas dans le territoire des Inuits, au Québec, la reconnaissance territoriale, toute la Côte-Nord, c'est assez clair. Nous sommes dans les territoires ancestraux des Inuits. Puis on nomme pas en plus. Et les Inuits venaient ici pour échanger. Et les Cris venaient aussi ici pour échanger. Il y en a peu, des ressources, mais elles sont là, qui prouvent, archéologiquement parlant, qu'on est dans un territoire Sénex. Les Sénex étaient les seuls à faire des pit houses, par exemple. On a répertorié dans la vallée de la Slocan, qui n'a pas été inondée par... Parce que là, c'est ça qui n'aide pas aussi la cause. Toutes les inondations qu'il y a eu dans la région dans les années 1950-60, justement, l'extinction des Sénex favorisait la construction de ces barrages-là. Parce que là, on venait de tasser la question des Autochtones. T'sais.
La construction de barrages d'eau électrique, là, tu parles?
Oui, qui servent les États-Unis. C'est hyper complexe ce qui se passe dans cette région ici. La plupart des barrages sur les lacs ici... C'est pour contrôler les niveaux d'eau dans le sud aux États-Unis. Donc, les États-Unis nous donnent plein d'argent chaque année. Puis là, en ce moment, on arrive à la fin de ce traité-là. Donc là, on est en renégociation du Columbia Treaty. Les Sénèques sont évidemment pas invités à la table, mais les Tonnerres sont là, les Okanagan sont là. Mais bien, eux, ils ont tous un conseil de bande, ils sont tous une première nation reconnue par la loi sur les Indiens. C'est pas le cas des Sénèques. Fait que c'est hyper complexe parce que c'est les Sénex qui ont été touchés de plein fouet par ces barrages-là et les Sénex sont même pas invités à la table de négociation qui pourrait générer des fonds aussi. Parce que là, l'idée avec la nouvelle négociation, c'est de partager un peu les revenus avec les communautés autochtones aussi. Un des impacts principaux de ces barrages-là, ça a été que les saumons ne remontent plus jusqu'ici. Ça a tout changé. Environnementalement parlant, socialement parlant. Ici, là, c'était la run de saumon la plus là, épique, comme de tout l'hémisphère nord. Les saumons partaient de l'océan Atlantique, tu sais comment loin on est des côtes. Ils se rendaient jusqu'ici, jusque dans Riverstoke, à travers la Columbia. Ils suivaient tout le long. Dans le bout de Castle Gar, là, c'était des grosses chutes. Là. Puis là, c'est là que les Ktanaha, les Okanagan, puis les Senecs se rencontraient souvent, puis ça pêchait, là. Ça pêchait aussi au Kettle Falls à Washington. Des grosses runs de saumon, là. On n'a plus de saumon. On sont bloqués par les barrages. Il y a des chefs de bande qui prennent des décisions au nom de toute leur nation. Mais qui sont-ils? C'est un individu. C'est pas nécessairement toujours les intérêts de la terre qui sont défendus. Mais dans le cas de Marilyn, c'est ça. C'est ce qui me permet, en tant que blanche, d'être alliée. Parce que je peux vraiment être derrière elle puis dire que moi aussi je crois à ça, parce que ce qu'on défend puis ce qui guide nos décisions, c'est pas un appât du gain. Elle parle jamais, par exemple, de ses droits au territoire. Elle parle toujours de ses responsabilités. C'est ça qu'elle essaie de partager le plus possible avec toutes les gens qui habitent dans les West Kootenays. C'est qu'on doit prendre conscience de notre responsabilité de prendre soin du Temhulao. C'est une responsabilité partagée. C'est pas juste pour les Autochtones.
Là, toi, t'es francophone.
Ouais.
Puis t'habites maintenant dans un lieu qui est majoritairement anglophone, mm-hmm. Colombie-Britannique. Fait, est-ce que ta relation au français a changé?
Tu sais, j'ai baigné dans un milieu quand même souverainiste dans les années 80. Mais ceci étant dit, je trouve que de baser un projet nationaliste seulement sur le français, dans le cas de la souveraineté au Québec, l'échec repose dans le fait qu'on n'a pas reconnu qu'il y a 11 autres nations à l'intérieur du Québec, qui demandent exactement la même chose que nous, c'est-à-dire l'autonomie gouvernementale, l'autonomie de décider de faire ce qu'ils veulent avec leur territoire, d'enseigner la langue qu'ils veulent à leur école, d'apporter leurs soins de la manière qu'ils le veulent. Il y a tellement de liens entre la lutte identitaire des Canadiens français et les luttes identitaires et les demandes d'autonomie gouvernementale des nations autochtones. Puis de ne pas avoir fait ce lien-là, puis de ne pas avoir prévu ou planifié qu'est-ce qu'on fait aussi avec les demandes d'autonomie des 11, il y en a 11 autres nations au Québec, tu sais. C'est un peu hypocrite de se considérer comme décolonisés, puis de vouloir avoir notre propre pays pour justement plus être décolonisés, mais de ne pas reconnaître la quête et les requêtes d'autonomie gouvernementale des autres nations qui sont à l'intérieur de notre... Tu sais, c'est pas que je voudrais pas qu'il y ait un pays du Québec, mais en même temps, il faut qu'on prenne en compte qu'il y a d'autres nations. Puis après ça aussi, c'est que il y a plein de francophones dans le reste du Canada. Fait que moi, j'aime me définir comme French Canadian, plus que comme Québécoise. Je m'identifie à mon identité de Montréalaise, je m'identifie à mon identité de Canadienne française, parce que je veux pas isoler les autres communautés francophones du reste du Canada. On n'est pas canadien français sans notre langue française. Tu sais, beaucoup de notre identité culturelle passe à travers la langue. Donc, si la langue disparaît, on n'est plus parlé, la culture a tendance à aussi disparaître.
Comment est-ce que tu prends la réalité Senex puis de la langue Senex? Parce que là, on est comme en train de dire bilinguiste super.
Ouais, ouais.
Mais on pense même pas à la langue autochtone qui était là avant ces deux langues-là.
Non, je suis très d'accord. En fait, j'avais commencé à avoir eu ces réflexions-là, même vu que j'allais dans un programme international. J'ai eu des cours d'espagnol. Et j'ai jamais eu des questions. T'sais, c'est pas des langues, ou bien l'allemand, ou bien, tu sais, on n'a pas accès tant. Mais c'est quelque chose sur laquelle toutes, je dirais, les communautés autochtones concentraient beaucoup d'efforts et d'énergie. C'est préserver la langue. T'sais, ça dépend aussi du nombre d'interlocuteurs qui sont encore présents. Mais t'sais, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des livres qui enseignaient l'Inuktitut, des livres qui enseignaient l'Anishinaabe. Est-ce qu'on devrait enseigner plus les langues autochtones dans les écoles? Oui. Puis je pense qu'on le voit de plus en plus.
Franc-Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebOuest. financé par le gouvernement du Canada et en partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation et animation, c'est moi, Patrick Lac. Productrice principale WebOuest, Micheline Arbé. Chef de contenu WebOuest, Sandra Poirier. Direction AFCO, Lynn Chartier. Réalisation, direction photo et montage vidéo, Jackie Atkins. Prise de son, mixage et médias sociaux, Véronique Trudel. Caméraman, opérateur drone et photographe, Alex Balcé. Traduction et rédaction, BPM Communication. Graphisme, Patrick Lac et Louis Fortier Design. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Thèmes musicaux, The Great Novel et Projet Hertz. Ambiance musicale, Patrick Lac, Charles Robert, Xavier Deschaines-Filion, Peter Reed et Spyro's Beat. Merci à Nelson Public Library et leur studio communautaire Tech Hub, Kootenai Co-op Radio, Radio Victoria, Jamie Shinkowski, Alexis Roy-Perra, Marcus Dénommé, Marley, Ralph et Béatrix, et Anne-Marie Claveau. Cet épisode n'aurait jamais été possible sans le soutien de l'Office de tourisme de Nelson et du lac Kootenai. Certains considèrent notre région comme l'un des écosystèmes les plus rares de la planète. On y retrouve des forêts anciennes, des espèces emblématiques comme le grizzly et le saumon Kokanee. Une vaste toundra alpine, des sommets majestueux et des vallées glaciaires qui recouvrent une zone tempérée intérieure unique. Notre région est peu connue, en fait. C'est deux chaînes de montagnes, un lac immense alimenté par les glaciers, et une véritable expérience authentique de culture, de plein air et de détente. Vous ne pourrez pas ressentir toute la richesse de cet endroit à travers votre cellulaire ou l'écran de votre iPad, même pas avec un épisode balado. C'est juste pas la même chose que de venir en faire l'expérience en personne. Il y a les rues principales qui datent d'une autre époque, aux couleurs vives et inspirantes, avec leurs galeries d'art, leurs théâtres, leurs boutiques. Il y a les dizaines de cafés, de micro-brasseries, de restaurants à découvrir, avec une ambiance d'après-ski tout au long de l'année. Faut pas oublier non plus la légendaire poudreuse. Que ce soit à la station de ski Whitewater, en cat-ski, en heli-ski ou simplement en hors-piste, c'est inoubliable. Peu importe ce que vous recherchez, vous allez le trouver ici. Nelson et le lac Kootenai. Notre place, votre place. Visitez le nelsonkootenailake.com pour trouver des idées inspirantes de voyage.